Bernard Stora, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du festival Lire le cinéma que la librairie organise avec le cinéma Utopia. Et donc pendant à peu près 4 jours, il y aura à la fois des rencontres et des projections au cinéma Utopia. Nous en reparlerons un petit peu tout à l'heure. Et nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour le livre que vous avez fait paraître au mois de septembre dernier, à l'automne dernier, dans le Cercle Rouge, qui est le compte-rendu au jour le jour du tournage de ce film qui est devenu au fil des ans un monument du cinéma français, même si on y reviendra évidemment, il a été sur le moment même déjà un très grand succès. Et donc Bernard Stora, vous êtes scénariste, vous êtes écrivain, vous avez réalisé des films à la télévision et au cinéma. Mais à la fin des années 60 et au début des années 70, vous êtes un premier assistant, assez demandé d'ailleurs, qui commence déjà à avoir une petite carrière, et vous allez vous retrouver sur ce film. Alors peut-être pour commencer, pourquoi avoir attendu, on va dire, 50 ans pour raconter cette aventure-là, parce que vous avez par ailleurs commencé aussi une deuxième vie d'écrivain. Peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de revenir à la question du cinéma. Et parmi tous les films que vous avez tournés, pourquoi c'est celui-là que vous avez choisi de raconter?
Alors, pour répondre à votre première question, pourquoi 50 ans? C'est parce que j'ai eu la chance de beaucoup travailler, vous voyez. Et donc, c'était beaucoup plus important pour moi de tourner des films, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, que d'écrire un livre sur une expérience qui, finalement, a occupé à peu près 10 ans dans ma vie, alors que ma vie de réalisateur a duré 40 ans. Bon, et voilà. Mais en même temps, c'est une idée que je n'ai jamais perdue de vue. Je me disais, j'ai gardé ces feuilles de service, on en reparlera. Mais il y a quelque chose à faire à partir de là, quoi. Un jour, je ferai quelque chose à partir de là. Et puis le temps a passé, et puis j'ai déménagé beaucoup dans ma vie, et je transportais à chaque fois, il y avait ce paquet de feuilles de service, et j'ai donné des tas de choses à la Cinémathèque, mais je donnais jamais ça, parce que j'avais cette idée, je ferai quelque chose un jour avec ces feuilles de service, voilà. Et puis, en effet, j'ai cessé à partir d'un certain moment, de tourner des films, et je me suis dit que je voulais prendre le temps d'écrire. Donc j'écris un roman, j'écris différentes choses, et puis à un moment donné, de Noël, mon éditrice, Dorothée Cuneo, je lui ai parlé de ce projet, elle m'a dit « mais c'est formidable, il faut le faire ». Bon, et donc j'ai cédé à l'amicale pression, comme on disait en politique avant, de mes amis et de mon éditrice en qui j'ai très confiance. Et je me suis mis au travail, au gros travail d'ailleurs, je dois dire, d'écriture de ce livre.
Oui, parce que avant de revenir à la genèse même du film, pour en rester à celle du livre, effectivement, vous l'avez évoqué, les documents de base et l'affaire très singulière, c'est que vous disposez depuis 50 ans, de déménagement en déménagement, de l'ensemble ou quasiment l'intégralité des feuilles de service qui ont accompagné le tournage du Cercle Rouge. Alors peut-être pour les moins initiés de ce qu'est le cinéma, pour nous dire ce que sont les feuilles de service.
Ben les feuilles de service, ce sont, si vous voulez, chaque soir après le tournage, on distribue, au moment de la fin du tournage de la journée, on distribue le programme du lendemain, somme toute. C'est une sorte de résumé de choses dont il faut se souvenir. Vous savez, un film, c'est itinérant. Alors, à cette époque, on tournait beaucoup en studio. 70% du Cercle Rouge est tourné en studio. Donc, les choses sont un petit peu plus simples. Mais très souvent, on change de lieu presque tous les jours. Donc, il faut donner le lieu, l'itinéraire, les heures de convocation des acteurs, les heures de convocation des techniciens, quelquefois qui sont décalés. Donc, c'est un aide-mémoire, somme toute. Donc, c'est un papier, il y en a un tous les jours, et c'est quelque chose qui n'a aucune valeur en soi. C'est vraiment pour... Alors, donc, on le lit, et quand il y en a une nouvelle, on les jette, et puis on les oublie. Ça n'a aucune valeur littéraire, ni même aucune... Ça peut avoir une valeur de souvenir, mais personne n'est assez bête pour conserver des feuilles qui, bon, à l'époque, donc c'était des feuilles ronéotypées. Voilà, c'est pour ceux qui ont connu l'époque où on s'était tapé la c'était des stencils qui étaient tapés à la machine. Donc, la secrétaire de production, le premier assistant faisait cette feuille de service. La secrétaire de production, je rentre un peu dans les détails. Et si jamais j'en donne trop, vous me
coupez. Je vous couperai, soyez sans crainte.
Et donc voilà. Alors, après ça, votre question, je ne sais pas y répondre. Pourquoi je les ai conservées, celle-là, et pas des autres films sur lesquels j'ai été assistant, je ne sais pas. Alors, ce serait facile de répondre, parce que je me doutais que ce serait un très grand film, mais j'ai fait d'autres films qui sont devenus... Il se trouve que ma carrière, si vous voulez, est partie dans ce qu'on appelait avant les gros films. Voilà, donc j'ai commencé avec Clouseau, j'ai continué avec Le Clan des Siciliens, avec Verneuil, j'ai fait Les Aventures de Rabbi Jacob, enfin une série de films comme ça. Et après tout, ce sont devenus des films à tort, à raison, mais enfin, ça ne se raisonne pas. Des films qui sont très appréciés du public, qu'on appelle des films cultes, qui passent très souvent à la télévision, etc. Voilà. Donc j'aurais pu, après tout, conserver ces mêmes documents sur d'autres films. C'est tombé sur Melville et finalement j'en suis assez content parce que ça me permet de... C'est sur ce film quand même que j'ai gardé le maximum de souvenirs. Il y a des films dont j'ai assez oublié le tournage, alors quand je les revois je me dis « Ah oui, on a fait ça comme ça, bon... » Mais c'est assez fragmentaire. Tandis que pour Melville, il y avait des choses... C'était tellement incroyable, si vous voulez, que beaucoup de choses m'étaient restées en tête, voilà. Mais ça valait le coup de les raconter.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'idée, c'est peut-être aussi de voir votre parcours au moment où vous arrivez sur le Cercle Rouge et puis aussi celui de Melville. De votre côté, ce qui est intéressant, c'est que vous le dites, vous étiez à la fois un premier assistant ou un assistant de gros films, mais en même temps, vous parvenez à enchaîner L'Enfer du Clouseau, avec l'aventure que l'on sait, c'est-à-dire... une production quasiment sans budget, sans limite de budget, oui. Et qui finit par un infarctus, celui de Clouseau, et après 4 semaines, je crois, dans ces eaux-là. Et après, le Père Noël a les yeux bleus, de Jean Eustache, qui, on ne peut pas imaginer un film plus antithétique, au moins au niveau des conditions de production. Ça veut dire que vous êtes déjà dans un rapport, parce que c'est aussi la position de Melville, entre un peu deux types de cinéma.
Complètement. Enfin, si vous voulez... en réalité, moi, j'ai adoré faire le film de Stache et j'ai une immense admiration et un immense respect pour et des rapports d'amitié avec j'ai eu avec avec Jean. Mais c'est le seul film de cette catégorie que j'ai fait, quasiment le seul film. Vous voyez, tous les autres, ce sont des productions importantes françaises, américaines, parce que. C'était devenu une espèce de spécialisation. Enfin, on savait, il y avait un certain nombre d'assistants, j'étais pas le seul, mais il y en avait quelques-uns qu'on savait qu'ils savaient maîtriser à la fois des metteurs en scène compliqués, qui étaient des vedettes eux-mêmes. C'était vraiment les Clouseau, c'était une grande vedette. On allait voir un film de Clouseau, on allait voir le dernier Clouseau, vous voyez. Ou le nouveau film de Verneuil, c'était lancé sur le nom du metteur en scène. Donc c'était des personnalités qui étaient quelquefois difficiles à manier. Et voilà, donc on me demandait sur ce genre de film, voilà, français, américain, et c'est comme ça que presque tous les films... J'en ai pas fait d'ailleurs énormément, parce que c'était toujours des films qui étaient très longs à préparer. Donc on passait un an, pas sur le Cercle Rouge, hein, mais par la suite, je vous ai parlé des aventures de Rabbi Jacob, c'est un an de travail, entre la préparation très compliquée et le tournage, et voilà, c'est un an de travail. Donc j'ai pas fait énormément de films, finalement,
et
comme assistant, je veux dire.
Quand vous sollicite pour être l'assistant de Melville, quelle représentation, vous, jeune homme que vous êtes à ce moment-là, vous avez de Melville? Est-ce que c'est pour vous une figure très importante ou c'est quelqu'un parmi d'autres dans le paysage du cinéma français?
Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui se passent en même temps dans ma tête, si vous voulez. Je réponds tout de suite à... Non, Melville, c'est pas quelqu'un parmi d'autres. Melville, c'est un metteur en scène très important pour des gens de ma génération. Donc moi, j'étais provincial, je venais de Marseille. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai préparé l'école de cinéma de l'époque, qui a été remplacée maintenant par la FEMIS, l'IDEC. Moi et mes camarades de promotion, filles et garçons, on avait beaucoup d'admiration pour Melville. C'était quelqu'un de très important et de très original, très à part, qui avait déjà cette légende. Parce que depuis le début de sa carrière, il a bâti une légende. Il s'est déguisé. C'était un homme déguisé. Le Stetson, les lunettes noires. Il y avait un certain nombre de choses qui faisaient qu'il était impressionnant, qui marquait les esprits. Mais surtout, ses films étaient formidables. Ces films, Bob le Flambeur, c'est un film formidable. Le Doulos, Léon Morin-Prête, qui est un chef-d'œuvre, etc. C'était des films formidables. Donc, j'étais parfaitement conscient que c'était la chance de travailler un très grand metteur en scène. Donc ça, c'était l'un des aspects de ma réaction. Le tout premier aspect, c'est que c'est un métier donc d'intermittence qui fait on commence un film, on tourne un film, ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis après on s'inscrit au chômage. Et alors les premiers jours sont formidables, les premières semaines sont épatantes. Au début, quand j'ai commencé à faire ce métier, il y avait quand même des petites... Après ça, j'ai enchaîné un peu les films. À peine l'un était fini, j'ai travaillé sur un autre film. Mais au début, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, je venais de terminer un film qui m'avait pris pas mal de temps, qui était un film d'Anatole Litva, qui était à cette époque un metteur en scène célèbre, hollywoodien. Donc le film s'appelait La Dame dans l'auto. J'avais terminé, mettons, début septembre, vous voyez. Et puis octobre, début novembre, et j'attendais que le téléphone sonne. Donc quand le téléphone sonne et qu'on me dit est-ce que vous voulez être assistant de Jean-Pierre Melville, je me dis je vais gagner ma vie, parce que vous savez, en France, la cinéphilie qui a bien des qualités, mais elle a aussi pas mal de défauts, dont l'un. Jamais vous entendrez un metteur en scène dire je fais des films parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Et pourtant, c'est le cas. Il faut que je révèle un grand secret. C'est quand même le cas. Voilà. Et alors, pour un technicien, n'en parlons pas. C'est un métier. Donc, il est très content quand on lui propose des films intéressants, ce qui était le cas là. Et il a besoin de travailler. Voilà, donc j'étais jeune, j'avais d'abord un enfant avec ma femme, donc c'était un pop. Donc c'était joie, soulagement d'avoir du travail. C'était à Melville, c'est une chance, et c'était aussi évidemment la réputation de Melville, c'était quand même le précédé. D'ailleurs, j'ai été sollicité parce qu'il s'était fâché avec ses précédents assistants. C'était un rituel. Là, dans l'Armée des Ombres, il avait des assistants, il s'est fâché avec eux, il avait un chef opérateur formidable qui était Pierre Lhomme, il s'est fâché avec lui, il s'est fâché quasiment avec toute l'équipe. Donc il renouvelait, il fallait bien qu'il y ait des gens qui travaillent avec lui. Et évidemment, le producteur se disait, bon, qui va être capable d'assumer, de tenir d'une certaine façon Jean-Pierre Melville, voilà. J'ai été appelé pour ça.
Avec une autre singularité que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre et qui est importante, qui est que à ce moment-là, il faut se représenter que, même si la nouvelle vague est passée par là, mais l'univers professionnel du cinéma est extrêmement codé, extrêmement hiérarchisé, et que Melville ne vient pas de cet univers-là. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de l'univers dans lequel on a fait ses classes comme premier assistant et ainsi de suite. Et que ce rapport-là à l'industrie globale du cinéma, elle est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dedans, dehors, chez lui, qui participe de l'espèce d'insatisfaction permanente où vous le trouvez, finalement.
Vous avez vraiment tout à fait raison d'aborder ce point. C'est fondamental pour comprendre Melville et pour comprendre aussi en partie ce caractère tout de même épouvantable et pénible qui serait difficile à imaginer aujourd'hui, d'ailleurs, hein, parce que c'était à un moment donné du harcèlement, quand même. Enfin, aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement, et ça l'était véritablement. Sauf que, à cette époque, c'était dans des traditions du cinéma, et justement, les équipes qui étaient habituées à faire ce genre de films, on les prenait parce qu'ils avaient fait avant du Vivier, autant la race, c'est-à-dire des gueulards, des gens qui étaient où il y avait sans arrêt des procès, des renvois, des gens qui étaient virés, enfin un côté voilà. Bon, donc avec Melville, je pense qu'une partie de ces difficultés, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le tournage était une épreuve épouvantable pour lui. Mais parmi ces raisons, il y a celles qui faisaient à l'époque que le système dans lequel il avait travaillé, il avait vraiment réinventé le cinéma pour lui. Il n'était pas du tout, quand il a commencé à faire des films, il était, je pense, dans la situation dans laquelle étaient les grands metteurs en scène américains que nous admirons tant, dont les premiers films, un jour, ils se sont dit, je vais faire un film. Ou bien, on leur a dit, ils étaient accessoiristes, ils étaient chauffeurs de production, ils étaient quelquefois sortis d'un milieu plus aisé et intellectuel, mais ils n'avaient aucune idée de la façon dont on faisait un film. Donc, ils inventaient le cinéma et ils inventaient en même temps leur métier. Melville, dans ses premiers films, c'était un peu ça. Donc, c'était des équipes très réduites. Très très réduite, c'était Henri Decaux qui était son chef opérateur, c'était un ingénieur du son, c'était vraiment des équipes, j'allais dire, c'était des équipes de courts métrages. Mais aujourd'hui, je suis stupéfait parce que quand je vois des courts métrages, un générique est presque aussi long que vous voyez
que le
cercle
rouge.
Oui, oui, avec le cercle rouge, oui, même que certaines super productions. Donc je me demande comment ils font avec tout ce monde. Mais les courts métrages étaient tournés avec 6-7 personnes, quoi.
Sachant que cette comme vous dites, il a réinventé le cinéma pour lui jusqu'à avoir ses studios.
Mais évidemment, évidemment. Donc il avait un système à sa mesure qu'il maîtrisait entièrement. Toute la chaîne de production, il méprisait une autre chaîne de production plus traditionnelle. Mais il considérait que le cinéma traditionnel l'avait empêché de tourner. Alors il y a beaucoup de légendes là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de mensonges. C'était quand même un grand affabulateur. Mais il disait, voilà, j'ai voulu faire un film, et le syndicat m'en a empêché, ce qui est en partie vrai. C'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu des cartes professionnelles, un système qui faisait que on était qualifié pour faire un film ou pas, et si on n'avait pas les qualifications, on n'était pas admis comme metteur en scène. C'est vrai. Donc, il y a une part de vérité dans ce qu'il disait là. Donc, il a créé son propre système. Il a inventé son propre cinéma et son propre rythme de tournage. Dans un pays comme la France, depuis les origines, on tourne, quand on commence un film, on commence un jour. Et s'il y a 40 jours de tournage, pendant les 40 jours suivants, excepté à cette époque, on travaillait le samedi, donc excepté le dimanche, on tournait tous les jours. Tous les jours, papa, jusqu'à ce que le film, en fonction d'un plan de travail, soit soigneusement établi. Là, il tournait en fonction de l'argent qu'il avait pour tourner et pour acheter de la pellicule. Donc, vous voyez, il tournait, il s'arrêtait, il reprenait, le tournage tournait. Mais c'était à sa main. Il avait le tournage complètement à sa main. Et quand il avait les studios, rue Génère, endroit que j'ai connu, enfin qui était en cours de reconstruction, il avait son appartement au-dessus, donc il descendait le soir en pyjama, qui était sa tenue favorite d'ailleurs, hors tournage, et puis il réglait les lumières, il prévoyait sa mise en scène du lendemain, voilà. Puis les studios ont brûlé au tout début du tournage du Samouraï. Donc il a fallu reconstruire les décors en hâte au studio de Saint-Maurice. Et les films qu'il a fait après, il lui en restait donc En dehors du samouraï, il lui restait trois films à faire, L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge et Un Flic. Et donc, il les a tournés hors de son système. Et il les a tournés, il a été obligé d'utiliser, de faire du cinéma comme tout le monde. Pas pour ce qu'il y avait sur l'écran, mais dans les conditions de tournage, c'était plus lui qui avait la maîtrise totale, il y avait un producteur, il y avait tout un environnement qui ne lui convenait pas du tout. Mais en même temps, comme toute sa vie, il avait rêvé d'être un metteur en scène reconnu, qui faisait des entrées, c'est-à-dire il avait envie d'accéder à un statut qui n'a jamais eu pendant l'essentiel de sa carrière, où il était toujours à la limite. Vous voyez, ses films marchaient plus ou moins, mais coûtaient pas cher en général, et il n'avait pas sa place dans le club des gens qui font des spectateurs, quoi.
Oui, ce qui explique aussi l'histoire compliquée qu'il a avec les jeunes gens de la Nouvelle Vague, parce que on sait très bien donc il joue brièvement par Vulesco dans Un bout de souffle de Godard, donc il y a un moment où il est vu un peu comme une sorte de parrain, alors dans un sens non mafieux, et puis il y aura une fâcherie, mais c'est vrai qu'il y a ce côté dedans dehors là aussi, qui fait que il y a à la fois cette économie qu'il précède. Et vous le dites vous-même, il a un côté pré-Nouvelle Vague dans sa débrouillardise, son autonomie, sa capacité à créer. Mais sauf que lui, son horizon, c'est finalement quasiment être un grand cinéaste de studio hollywoodien. Donc il y a quelque chose comme ça entre les deux.
C'est un peu ça, oui. Et puis je pense, là par contre, la majorité des choses que je vous dis, c'est bizarre de dire ça, mais enfin, sont vraies. Parce que je les ai vécues. Donc je les atteste. Et je vous demande de me faire confiance, mais là, après ça, il y a des suppositions. Moi, je pense qu'il s'est fâché avec la Nouvelle Vague parce qu'il aimait pas leur film.
Oui, tout simplement.
Ce que je peux très bien comprendre. Il aimait pas leur film. Il trouvait. Et justement, c'est à partir de là qu'il a développé tout ce délire sur le professionnalisme. Je suis un professionnel. Les autres ne l'étant pas, évidemment.
Avec quand même comme point commun, et ça, vous y revenez aussi, c'est une très profonde cinéphilie. Lui-même racontant que c'est une cinéphilie qui, même à une époque, était presque de l'ordre de la cinéphagie. C'est-à-dire que c'est un homme qui a vu véritablement des milliers de films et a passé des journées à voir des films et qu'il en fait quelque chose de cette très grande et très profonde connaissance qu'il a du cinéma et particulièrement du cinéma américain.
Mais oui, tout à fait. Alors, il a vu des films depuis très très jeune. Hein. Sa bonne l'a emmené au cinéma. Sa nounou l'emmenait au cinéma. D'ailleurs, il racontait cette histoire qui est quand même merveilleuse, selon laquelle sa nounou en question l'amenait à l'église, déjà, alors qu'il était juif. Enfin bon, elle l'amenait à l'église et il était la pompe de l'église, tout ça. Et il raconte, vrai ou faux, mais c'est tellement joli, que la première fois que sa nounou l'amenait voir un film à l'Aubert Palace, il cherchait le bénitier pour rentrer. Faut quand même. S'il a inventé, c'est fort quand même. Mais c'est tellement joli.
Oui, c'est le type d'invention auquel on a envie de souscrire.
Ah oui, oui.
Parce qu'elle mérite en elle-même leur force créative.
Oui, donc il voyait beaucoup de films depuis toujours. Et puis après, à partir du moment où il a lu ses studios, c'est-à-dire juste après guerre en fait, en 46-47, il avait une salle de projection. Et il visionnait beaucoup de films, il faisait venir des films, et il demandait aux distributeurs, il voyait des films chez lui.
Et alors, donc, vous arrivez sur le Cercle Rouge, et deux choses que vous précisez. Alors, peut-être dire brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un premier assistant, à quoi ça sert, et, à tout, évidemment, mais quel est le rôle, qu'est-ce qu'on attend de vous, finalement?
Un premier assistant, c'est celui qui organise, en fonction de ce qu'il comprend, d'abord en lisant le scénario, mais aussi en parlant avec le metteur en scène, qui organise le tournage et qui fait que les choses qui sont nécessaires, les décors, à cette époque-là, il n'y avait pas ce qu'on appelle des casting directors qui sont là pour choisir les comédiens. C'était les assistants qui faisait la distribution du film, en dehors des rôles principaux, évidemment. Qui prévoit qui donne des indications de telle façon que les décors soient construits comme le metteur en scène des. Enfin, il organise tout l'aspect pratique du tournage selon les indications et ce qu'il comprend du projet du metteur en scène. Voilà. Et puis sur un plateau à cette époque en tout cas et sur des films de cette importance. Ce qui est un peu qui ne se passe pas comme ça aujourd'hui, les assistants préparaient le plan, c'est-à-dire le metteur en scène disait voilà, là, je fais un plan comme ça, la caméra avancera, il se passera telle chose. Bon, et après ça, il donnait le plateau à son assistant, et l'assistant mettait en place, on appelait ça le plan, l'installation du travelling, s'il y en avait un. Les mouvements d'appareil, les déplacements, la figuration, les déplacements et même aller jusqu'aux répétitions avec les figurants et les comédiens secondaires et les doublures des vedettes. Voyez donc. Et après ça, on appelait le metteur en scène et on lui disait Monsieur, on est prêt. Et il venait et il assistait à une répétition. Ça lui plaisait, ça lui plaisait pas. Il changeait des choses. Voilà, les choses se passaient comme ça. C'est compliqué, c'est compliqué de comprendre parce que la notion d'auteur, si vous voulez, d'hypertrophie a un petit peu changé les choses. Et aujourd'hui, les metteurs en scène s'agitent beaucoup alors que d'autres pourraient faire le travail à leur place. Mais ça, c'est un point de vue personnel.
Avec un point qui est que quand ce que vous dites aussi, quand vous avez le scénario la première fois entre les mains. Entre guillemets, ce n'est pas un scénario qui vous impressionne. C'est un scénario dont vous sentez qu'il est.
Un scénario que je trouve épouvantable.
Voilà. Je fais un peu de nuance pour vous.
Non, mais c'est un scénario que je continue à trouver très médiocre, tout en admirant le film, et surtout un scénario pour un scénario policier qui est bourré d'invraisemblances quasiment. Et d'ailleurs, il y a même un site sur Internet qui est assez marrant, qui répertorie les invraisemblances absolues du scénario. Comment un tel peut être là alors? Pourquoi il rentre dans le coffre de la voiture et il a sa cigarette allumée des choses. Alors chacun ajoute un truc. Et la question que je me posais, je me suis dit, mais comment ce metteur en scène que j'admire et qui a fait des films formidables et très comment il va se tirer de ce comment il va arriver à faire du Melville avec un scénario qui me semble quand même faiblard quoi. Il faut quand même penser que Melville a tourné beaucoup d'adaptations. Alors Bob le Flambeur, c'est un très bon scénario, vraiment très très bon. Mais en dehors de ça, les scénarios qu'il a, trois hommes dans Manhattan, c'est vraiment pas terrible. Un flic, c'est infra.
Il y a un grand débat. On va pas refaire le débat sur un flic ce soir, mais je suis d'accord, c'est un film qui partage beaucoup les Melvilliens.
mais les très grands films sont des adaptations de José Giovanni, qui est un très très grand écrivain, donc
de Béatrice Beck, de Kessel,
de Kessel, et ben voilà, Béatrice, Léon Morin-Prêtre, c'est un film encore une fois que méconnu, je trouve, qui est un film absolument formidable.
Mais il y a un point, je pense, qui est important, c'est donc comment fait-on pour faire un film qui nous paraît aussi important, aussi grand, avec un scénario aussi médiocre? Donc c'est le.
Là, on s'appelle Melville.
Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui dans Melville produit ça? Parce que c'est aussi ce que vous décrivez dans le livre. Hein. Qu'est-ce qui.
C'est
la mise en scène finalement.
C'est la mise en scène. Alors, il faut pas en tirer la conclusion de n'importe quoi. Vous voyez, parce qu'il y a eu cette théorie à un moment donné. Hein. La mise en scène prime tout. On peut tourner l'annuaire du téléphone. On verra tout de suite l'auteur par sa mise en scène. Et ça, je n'y crois pas du tout. Je pense d'ailleurs qu'aucun metteur en scène pourrait adhérer à une théorie aussi stupide. On préfère évidemment avoir un bon scénario. C'est tellement mieux, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus valorisant pour les comédiens. Bon, Évidemment qu'on préfère un bon scénario à un mauvais scénario. C'est une lapalissade, vous voyez. Mais dans le cas de Melville, effectivement, au jour le jour, je me disais qu'il est quand même sacrément fort, quoi. Il est fort. Il est fort parce qu'il crée une atmosphère. Il y a une souplesse, une élégance de la mise en scène, un côté un dépouillement. Il est très fort, voilà. Donc il est arrivé. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a énormément travaillé au montage. D'ailleurs, donc j'ai déposé le scénario à la Cinémathèque. Maintenant, mon boulot est fait. Donc j'ai pu enfin me débarrasser une étagère dans mes affaires et enlever tout ce qui concernait le cercle rouge. Donc le scénario, mais aussi un scénario préalable corrigé de la main de Melville. En fait, des documents qui, pour des chercheurs, sont intéressants, je pense. Et donc, quand on lit le scénario, c'est-à-dire le scénario de tournage, il y a plusieurs étapes de scénario dans un film. Il y a le scénario tel qu'on arrive à qu'on pourrait réécrire d'après le film qu'on voit, puis il y a le scénario dont on est parti. Alors, quelquefois, les deux sont copies conformes, mais dans le cas du Cercle Rouge, il y a énormément de bouleversements, de chronologie, de scènes qui étaient prévues après, qui viennent avant, de scènes qui sont coupées, d'autres, vous voyez. Donc c'est un immense, très très grand et très magnifique travail de montage aussi. Le film s'est fait en grande partie au montage.
Avec une autre, avec une dimension que vous évoquez aussi à plusieurs reprises et qui est très importante, qui est la question de la dilatation. Parce que c'est parmi les ressources, justement, qui font que d'un scénario épouvantable, on peut aussi faire un film qui est fascinant, c'est la dilatation, sachant que la dilatation, c'est pas du tout une recherche de l'ennui ou de la contemplation. Enfin, c'est un travail très conscient de la part de Melville.
En particulier pour la scène qui dure quand même 25 minutes du casse, et dans lequel il se passe rien. Rien. Si on compare cette scène avec le film de Dassin, vous savez, Réfugié chez les hommes, la scène est il y a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de trucs étonnants dans le Réfugié ou dans le film de Stone dont il s'est inspiré aussi. Il m'avait dit dès le départ, il m'avait dit, vous allez voir mon coco. Je vais dilater. Et pour dilater, il a dilaté. Alors dilater, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque action, la caméra s'attarde dessus, la détaille, vous voyez, une main. Le découpage est très bressonien. Rappelle beaucoup le cinéma de Bresson. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails qui finissent par donner de l'épaisseur, un sentiment de suspense, susciter une angoisse qui n'est pas véritablement qui n'est pas véritablement inscrite dans ce qui est écrit sur le papier. Parce que ce qui est écrit sur le papier, finalement, tout se déroule au poil. Hein. Les trains arrivent à l'heure dans la séquence, Montand est là pile poil avec son étui à guitare, il monte son... Tout se passe bien, mais le talent et puis surtout le fait que Melville devait être, à mon avis, le premier à se dire comment je vais donner de l'épaisseur à ça, comment je vais faire que ce soit passionnant pour les spectateurs, comment je ne vais pas perdre les spectateurs en route. C'était sa terreur. Il avait très peur de ça. Il n'était pas du tout un metteur en scène d'improvisation et de choses comme ça. Il avait peur de perdre le spectateur. Il se préoccupait beaucoup du spectateur.
Oui, c'est ça qui est important, parce que vous évoquiez les invraisemblances. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, que vous soulignez à plusieurs reprises, c'est qu'il a une attention aux détails qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il va dire, dans une scène de train, non, non, mais là, il ne faut pas que la plaque soit en formica, il faut qu'elle soit en bois, sinon ça ne marche pas. Oui. Donc, paradoxalement, il sait que la cigarette présente là et pas là, c'est pas grave pour le spectateur. Par contre, il sait que tel détail, c'est... Vous pensez pas qu'il y a cette dimension, comme il sait quels sont les détails qui sont véritablement importants et pour la narration, ou s'il lui accordait trop de crédit.
Vous savez, c'était à géométrie variable quand même. Hein. parce que la cigarette qui est dans un plan et pas dans l'autre, quand il le voyait pas, ça le gênait pas, évidemment. Et, mais quand il pouvait le voir et qu'il pouvait assassiner la script, qui, comme par hasard, était la femme d'Henri de Cade, donc la pourrir, comme on dirait maintenant, en public et l'humilier, il le faisait. Mais comment? Mais quoi, Jacqueline? Comment? Alors oui, mais tu l'as pas noté. Donc, faut en prendre et en laisser. Mais le talent, le grand talent, pour ne pas utiliser des superlatifs et monter dans le génie, mais enfin quand même, c'est fort, quoi, ce qu'il fait, et dans le jusqu'au cercle rouge, et quand même très étonnant, quoi. C'est un metteur en scène du détail, un metteur en scène de l'atmosphère, qui est quand même unique, quoi, qui est très fort.
Et vous y insistez aussi, c'est un génial directeur de casting.
Oui. Alors, c'est un. Alors, il connaît très bien les acteurs. Il les connaît très bien. Il se trompe jamais. Et effectivement, sur ce film-là, alors que c'était les assistants étaient très contents de faire le casting. C'était intéressant. Ils avaient des fichiers dans lesquels il y avait des centaines d'acteurs. Ils cherchaient. Bon, ils étaient contents d'avoir des trouvailles. Ils allaient au théâtre. Ils repéraient un comédien. Ils disaient au metteur en scène :« Il faut que vous alliez voir. » Bon, là, de ce côté-là, c'était la grande frustration pour moi, parce que, enfin, frustration et admiration, parce qu'il sortait des gens que j'avais jamais vus, dont j'avais jamais entendu parler, qui étaient quelquefois l'acteur qui fait le chef de la police,
oui, hein, qui est extraordinaire, oui. Enfin,
non. Oui. Bon, qui n'était pas inconnu pour les gens qui connaissaient très bien le cinéma des années 40.
Oui, il a même commencé. Il commence en 1909. Cet acteur-là.
Donc il avait quand même 66 ans là, au moment du tournage. Oui. Oui, il avait commencé au temps du muet. Donc il avait des idées formidables et il était capable pour des. C'est difficile ça. Il savait pour un petit rôle, une silhouette ou quelqu'un qui passe ou qui dit deux mots. Alors, jusqu'au dernier moment, on n'avait pas l'acteur. Je disais, mais monsieur Melville, qui on va prendre pour faire Oh, j'ai peut-être une idée. Bon, trop bien. Puis un jour, il disait, bon, on va prendre un tel, bon, d'accord. Et il prenait un figurant qui était pile poil ce qu'il fallait, quoi. Et dont il savait, il était sûr qu'il pouvait dire deux mots. Pas quatre, deux. Et c'est un talent, ça. Il y a des acteurs qui sont absolument... Enfin, des acteurs... Oui, il y a des petits acteurs, disons, sans mépris, qui sont merveilleux pour trois mots. Et qui amènent une singularité parce qu'on les a jamais vus. Voilà. Et lui, il savait très bien faire ça. Très bien.
Et il avait aussi cette force-là pour les décors. Enfin, pour les décors hors studio. C'est-à-dire qu'on paraît la maison du receleur jouée par Paul Crochet...
Elle avait déjà servi.
Enfin, oui, la rue avait déjà servi, mais la maison qui a fait peur, ouais, à bien des enfants, elle est pareille. C'est ouais, une trouvaille magnifique.
Oui. Alors, bon.
Et c'est en ce sens-là que le détail prime sur la vraisemblance.
Oui, mais enfin, il a fait bien passer la vraisemblance, hein, parce que si vous voulez, quand même, moi, j'ai participé au film, je l'ai vu plusieurs fois. Et il a fallu que je le voie, que le film soit, pour travailler pour ce livre, que le film soit sur mon ordinateur et que je revoie je ne sais combien de fois telle ou telle séquence, etc. Pour tout à coup, par exemple, la scène où Jeanne Maria Volonté s'enfuit du train, puis traverse le torrent, etc. Et à un moment donné, en revoyant ça, je me dis, mais pourquoi il se déshabille? Il a de l'eau qui lui arrive aux chevilles. Enfin, c'est idiot. Il se dessape quasiment entièrement. Mais ça ne m'était jamais apparu. Et le public regarde ça et ça passe. C'est assez fort, quoi. Il arrive à faire passer des choses qui, normalement, n'importe quel, c'est de la rigolade, ça. Ça n'a pas de sens.
Et Volonté, qui est la grande souffrance, pour le coup, lui qui choisit tous ses acteurs... Il n'a pas vraiment choisi celui-là parce que c'est le poneur des coproductions italiennes de l'époque.
Mais oui.
Et ça, c'est pour Melville, c'est insupportable qu'il y ait un élément tel que celui-là qu'il ne dirige pas. Vous pensez
moi,
pas
moi, je vais vous dire mon idée, c'est que je pense que moi, j'aime pas beaucoup Volonté. Je l'aime beaucoup comme acteur hein, dans beaucoup de ses films, etc. Et je trouve très impressionnant. C'est pas forcément le style de jeu que j'adore, mais c'est un très bon acteur, évidemment. Je pense pas que ça soit une idée formidable pour le rôle qu'il joue dans Le Cercle Rouge, personnellement. Moi, à mon avis, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout parce que Melville était de droite ou réputé de droite, encore que dans son cas, ça soit plus compliqué que ça, et que Jeanne-Marie La Volonté était censé être communiste et même à l'ultra-gauche, s'en foutait complètement de ça. Non, c'est parce qu'à un moment donné, vous savez, le talent de Melville, c'était que il prenait un décor, il prenait un accessoire, il prenait un acteur, et il le rendait melvillien. Et tout à coup, il faisait partie de son univers. C'était plus les mêmes que c'était plus simplement.
C'est précisément le cas de Bourvil, par exemple.
C'est le cas de Bourvil, voilà. C'est miraculeux. Mais un décor, des décors, tout à coup, des choses très simples. On se dit, mais pourquoi c'est tellement extraordinaire? Pourquoi la poursuite, justement, à un moment donné, j'en parle dans ce livre, on est dans une grande prairie, on voit les CRS qui montent, il y a la voie ferrée, passe un petit train. On se dit, mais il se passe un truc formidable, quoi. Tout à coup, ce paysage qui est joli, mais qui n'a pas d'intérêt particulier, enfin qui n'a rien de spécialement cinématographique, il en a fait un élément du monde de Melville. Il avait son monde et il pliait le monde à sa vision. C'est assez formidable, c'est la définition d'un metteur en scène d'ailleurs. Hein.
Mais justement, vous avez de très belles pages sur Bourvil dont on perçoit dans vos lignes que ça a vraiment été une rencontre forte, parce que à la fois c'est une espèce de dernière incarnation ou quasiment dernière incarnation, et en même temps c'est un moment de métamorphose d'un personnage extrêmement populaire en autre chose.
Mais oui, parce que Bourvil, je le connaissais parce que j'avais fait 2 ans plus tôt, j'avais été deuxième assistant dans un film d'Alex Hoffé qui s'appelait Les Cracks, qui était une comédie à grand spectacle qui racontait l'histoire d'une course cycliste dans les années 1900, et où Bourvil était un coureur cycliste, un inventeur génial. Il avait inventé le dérailleur, je ne sais quoi. Bon, et donc voilà. Et j'avais vu cet homme qui était plein de force, qui était un bel homme, séducteur. Plein de santé, très gai, très drôle, bon. Et je l'aimais. Tout le monde aimait Bourvil. Tout le monde aimait cet homme qui était vraiment merveilleux. Et 2 ans après, 1 an et demi plus tard, je le retrouve miné par la maladie, comme rétréci, comme s'il avait rétréci au lavage, vous voyez. Un petit homme. Et donc, d'une certaine façon, il s'était melvillisé
avant.
Bon, alors tout ça, c'est je vais pas tout ça est le fait du hasard, mais de hasard que Melville avait un certain talent pour apprivoiser, parce que c'est ça un metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait profiter du hasard ou appeler le hasard à la rescousse. Et donc, parce que l'idée, je le raconte pour nos amis qui écoutent ici, et Melville était, il n'avait pas le personnage principal. Donc le commissaire Mattei, ça devait être Lino Ventura. Il était fâché avec Lino Ventura, donc il n'y avait plus de Lino Ventura. Exit Lino Ventura. Et imaginez un peu le film avec Lino Ventura. Hein. Ça aurait été un film totalement différent. Notre signification, notre. Donc, moi, quand j'arrive sur le tournage, sur la préparation du film, début décembre, c'est-à-dire à 5 ou 6 semaines du tournage, il n'y avait pas d'acteur. Et il y avait sur la table une proposition du producteur, Robert Dorfman, qui disait à Melville, vous devriez prendre Bourvil. Bourvil est très bon dans... Il avait beaucoup tourné avec Bourvil. Et il est très bon dans les rôles dramatiques. Et Melville me disait, mais enfin, monsieur Stora, mais je ne sais pas où monsieur Dorfman a la tête. C'était toujours monsieur, hein. Où monsieur Dorfman a la tête. Mais enfin, quand les spectateurs verront arriver Bourvil en flic, ils vont tous se mettre à chanter la tacatacatique du gendarme. C'est ridicule. Et puis, il n'y avait pas d'autres propositions. Et puis surtout, je pense que à un moment donné, Melville s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire avec lui, quoi. Il y a quelque chose à faire. Mais il l'a métamorphosé. Alors, je résume rapidement les métamorphoses opérées. Ça a commencé par Bourvil était un homme simple qui s'habillait n'importe quoi, enfin qui s'habillait comme il se sentait confortable, quoi, comme beaucoup de gens. Bon, on pouvait pas dire qu'il était bien habillé. Et il l'a habillé chez le meilleur tailleur de Paris, qui était d'ailleurs son tailleur, bien sûr, avec des costumes, avec des étoffes venues d'Angleterre, qui étaient des merveilles, et sur mesure, avec l'extraordinaire tombée qu'ont les fait par les grands tailleurs, évidemment. C'est-à-dire qu'ils adaptent complètement au défaut, une épaule plus basse, hein, je ne sais pas quoi. Et donc, je me rappellerai toujours que de Bourvil enfilant ce costume et se regardant devant la glace, il se reconnaissait pas. Il disait « Je suis beau ». Il s'était jamais vu spécialement beau. Il savait parfaitement qu'il était séducteur parce que c'est un coquin, mais de là à se trouver beau, c'était voilà. Après ça, il lui a mis le toupet, vous voyez, il lui a mis des cheveux alors qu'il commençait à être sacrément dégarni. Et après, coup de génie, il a imposé une diction qui était à l'opposé de la diction de Bourvil, qui était un Normand, qui traînait sur les mots, qui prononçait toutes les syllabes, et même avec des intonations qu'il n'y avait pas pour allonger un petit peu le mot. Et là, il lui imposait une gymnastique incroyable et très difficile à respecter, qui consistait à avaler, à pratiquer la litode, à avaler les voyelles. C'est-à-dire, pour donner un exemple très simple, au lieu de dire... Je ne veux pas. Alors là, comme ça, bon, j'y arrive. Mais si c'est sur tout un dialogue et sur des phrases plus ou moins complexes, c'est vraiment, il faut travailler et penser à ça. Et pendant que Bourvil pensait à ça, il ne pensait pas à jouer. Et c'était ça le truc de Melville, quand même. Les acteurs sont, c'est pas Bresson, mais c'est presque Bresson, c'est-à-dire c'est un parler blanc. C'est pas tous les tics d'acteurs sont effacés. Et il a obtenu ce, il est, moi je trouve absolument formidable Bourvil dans le Cercle Rouge.
Oui, il est vraiment magnifique. Enfin,
c'est formidable. C'est le meilleur rôle aussi, hein. Oui. Les rôles ne sont pas équivalents.
Les rôles ne sont pas équivalents. Et ce que vous disiez sur Volonté aussi, c'est que au-delà de toutes les disputes, il y a quand même le fait que le rôle de Volonté en tant que rôle, il n'est pas un bon rôle. C'est un rôle faible, écrit.
Un acteur que immédiatement il regarde un truc. Un acteur, il dit est-ce que je suis moteur ou pas. Ça veut dire est-ce que ma présence modifie dans des scènes dramatiquement écrites. Bien écrite, modifie la situation. Bon. Et là, il modifie jamais la situation. Il suit en permanence Delon comme un plombier son arpette, voyez, oui, qui porte les outils. Enfin, pendant la scène de la grande scène de Hold Up, c'est presque à un moment donné. Si on se fixe là-dessus, mais le spectateur ne se fixe pas là-dessus, il est intéressé par d'autres choses. Et si tout à coup on voit la scène plusieurs fois, on me dit mais il a rien à faire, il court derrière Delon, il ouvre les portes. Enfin, bon, c'est pas très.
Et vous évoquiez la capacité justement de Melville à mettre les acteurs à sa forme, et vous le racontez aussi bien pour Montand. Par d'autres moyens, parce que disons que bressoniser Montand, c'est quand même une activité à plein temps. Mais effectivement, là aussi, c'est partie des grands rôles de Montand qu'on a eu un certain nombre. Et en plus, vous racontez de façon assez touchante comment vous, à ce moment-là, vous êtes un admirateur depuis l'enfance de Montand, et ce qui se noue un peu entre vous et ce qu'il a à la fois de séduisant et d'agaçant en permanence.
Parce que Montand, pour lequel j'ai une grande admiration pour le chanteur, pour l'artiste musical, absolument formidable. Bon, et c'était un bon acteur, évidemment. Et il avait besoin de beaucoup parler, quoi. Il parlait, il s'expliquait. Tu as bien compris, fils? Non, mais je t'explique. Et on pouvait pas lui dire, monsieur Montand, j'ai compris, c'est pas la peine de me l'expliquer trois fois. Et en plus, j'avais autre chose à faire. J'étais très occupé. L'atmosphère du plateau était extrêmement tendue. Donc, maintenir tout ça en équilibre, faire qu'il y ait le minimum d'esclandre qui interrompt le tournage. Parce que, si vous voulez, quand le problème à un moment donné, c'est que le bateau tangue, mais il faut qu'il arrive au port, quoi. Voilà, il faut qu'il arrive, il faut que ça se passe. Même si une journée s'est très mal passée, le lendemain, on est là, et il faut effacer la journée de la veille. Et faire en sorte que la journée de qu'on attaque soit une journée à peu près possible, quoi. Bon, donc effectivement, pour dire les choses, mon temps était pompant, quoi. À un moment donné, on n'en pouvait plus, mais c'était mon temps, voyez. Et puis il y avait il avait cette qualité, et Bourvil l'avait aussi d'une certaine façon. Ce sont des gens qui avaient commencé au musical. C'était des acteurs, des chanteurs, c'était des fantaisistes. Et le musical, c'est une discipline extraordinaire, quoi. Les gens savent tout faire, d'abord. Ils savent bouger, ils savent occuper le public, ils savent danser. Donc, en général, ils sont très habiles. Et surtout, ils sont habitués à travailler dans toutes les circonstances, quoi. Il s'étonne de rien, parce que un Bourvil et même un Montand, un soir ils sont dans une salle vraiment moche, dans un coin dont personne n'a jamais entendu parler. Le lendemain, ils sont à l'Olympia ou au Carnegie Hall, et ils produisent exactement le même spectacle, pareil, ils se donnent pareil. Montand, c'était ça, et donc Melville, il n'osait pas tellement lui parler, quoi. C'était curieux parce que c'est quand même un type qui avait fait je sais combien de fois le tour du monde, qui était un chanteur et un acteur très célèbre, surtout un chanteur très célèbre dans le monde entier. Et il osait, Melville quand même l'impressionnait beaucoup, mais il faisait son travail et surtout il voyait ce qu'il pouvait tirer de ce film. Il savait bien que son rôle n'avait pas grand intérêt, mais il y avait deux ou trois scènes formidables. Le délirium très mince, évidemment. Son arrivée en sauveur avec le tir pendant le hold-up. Il savait que ça, c'était, il fallait pas, il faisait le film pour ça, quoi. Et donc il s'est préparé très soigneusement, parce que c'est un homme qui travaillait énormément, qui avait cette habitude de répéter. Et je me disais, mais il répète trop. Parce qu'il vient par là, petit, viens par là, je vais te montrer. Alors, il me montrait comment il montait le fusil. Mais ça devenait comme dans les chansons qu'il transformait en petit sketch merveilleux, etc. Si c'est pas possible, ça va. Mais les grands acteurs, c'est à un moment donné, ils sont sur le plateau, ils se rendent compte du truc et ils gomment tout ce qui dépasse. Vous voyez, ils ont ce sens de... Ils ont ce sens d'être juste quand il faut l'être, au moment où il faut donner son effort, quoi.
Oui, c'est ce que vous dites aussi. C'est au-delà de la question de l'ambiance du plateau, c'est aussi le sentiment, et Bourvil le dit à un moment, de participer à un film
voilà.
qui vaut quelque chose, qui induit les forfaits aussi par les, voilà. par les acteurs.
Il sentait qu'il n'avait jamais fait un film comme ça, et que peut-être il n'en referait jamais, parce que ça tenait à un metteur en scène qui était très spécial, qui avait un talent très particulier, et qui était sans doute, et je le pense vraiment, l'un des plus grands metteurs en scène français de tous les temps, et qui le reste.
Alors, vous avez évoqué, peut-être aussi pour finir sur une note plus légère, la capacité de Melville à rendre parfois le tournage quasiment invivable et insupportable, mais il pouvait rire aussi. Et vous évoquiez Montand, il y a quand même une scène articulée à Montand, justement sur le moment du délirium, où qui montre que vous êtes obligé de raconter, de mettre Melville dans la confidence de quelque chose, que vous dites que être assistant, c'est être cafeteur en chef, puisque vous êtes aussi là au service du metteur en scène. Et je veux bien que vous racontiez effectivement cette aventure, cette idée de Montand qui, heureusement ou malheureusement, ça n'a pas abouti.
Ben, Montand, c'était un jour, vient me voir et me dit j'ai une idée, tu vas voir. C'est... Il était marseillais comme moi, hein, donc on s'entendait un peu pour ça aussi, assez bien. Et j'ai une idée, c'est quand même quelque chose, parce que, bon, les animaux, c'est bien les araignées, tout ça, mais il manque quelque chose de fort. Alors, j'ai imaginé, les rats montent sur moi, ils montent, ils montent, ils montent, et à un moment donné, je dis à Jean-Pierre, coupez, et là, on remplace les vrais rats par des rats en pâte d'amande. Et le rat arrive, enfin, on le met, et moi, ham, je le croque. Et je me dis, là, on est mal parti. Là, on est parti pour les ennuis, quand même. Et donc, je dis à Phil, je cafte, en effet. Je dis, allez, il me dit, n'en parle surtout pas, Melville. Tu fais fabriquer les rats, mais n'en parle surtout pas à Jean-Pierre. Bon, et évidemment, j'en parle. C'est mon travail, parce que si vous voulez, oui, je dirais ça après. On est assistant du metteur en scène. On est là pour l'aider, pour essayer de dire qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il veut, comment je vais faire pour résoudre tel ou tel problème, etc. Et je lui raconte cette histoire de... Alors, ça le fait rire aux larmes, mais aux larmes. Il me dit, voyez, j'avais raison, parce qu'il m'avait dit précédemment, Monsieur Montand est un schpounz. Mais il avait dit avec certaine tendresse, parce qu'il admirait Montand. Hein. Et puis, et d'ailleurs, la preuve qu'il était content de Montand, c'est que le film, s'il n'avait pas eu sa crise cardiaque à 56 ans, à force de boire du café au lait, de manger des pommes de terre à l'huile et de ne faire aucun, de passer ses journées au lit, il était cardiaque et donc il est mort. Bon, dommage, mais il était en train d'écrire un scénario. Et la vedette de ce film, c'était Montand. La plus vedette prévue, donc il l'admirait. Monsieur Montand est un schpounz. Ah, il m'a dit, alors j'ai dit, bah écoutez, alors, il faut quand même arrêter ça dans l'œuf. Tu es là, non, faites fabriquer les rats, faites fabriquer les rats. Donc, l'accessoiriste, les personnes chargées de ça, trouvent le meilleur confiseur de Paris spécialisé dans la pâte d'amande. Et deux, trois jours plus tard, arrive l'accessoiriste me dit, viens voir, j'ai les rats. Alors bon, je vais dans son magasin d'accessoires, il y avait un carton à gâteau, vous savez, et il ouvre le carton, et là, il y avait un rat gris et un rat brun qui avaient l'air bien embêtés. Hein. Franchement, ils étaient bien imités. Mais enfin bon, c'était des rats en pleine demande. Alors je dis à Melville, les rats sont prêts. Montrez-moi les rats. Alors, nouvel éclat de rire. Et il me dit, montrez-les à Monsieur Montand. Et donc je vais voir Yves, je lui dis, ça y est, les rats sont prêts. Ah oui, les rats sont prêts. Bien, je vais les voir. Alors donc, on l'amène dans le magasin, on ouvre le carton chapeau. Et là, il dit, Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Je voudrais pas avoir l'air de me moquer de mon temps. Vous savez, j'ai un énorme respect. Enfin, c'est vraiment un artiste, un vrai, quoi. Il était intelligent, mon temps. Il était tellement intelligent dans ses interprétations. Tellement intelligent. On écoute une chanson, on est quand même très, très impressionné par cette intelligence. C'était pas une intelligence des mots. Et dans ses raisonnements et tout, politique, et on sentait le gars qui s'était fait donner la leçon par Simone. Et il disait les choses, mais pas tout à fait dans le bon ordre.
Alors, on ne peut pas quand même, il faudrait malement conclure, mais on n'est pas loin d'avoir réussi l'exploit d'avoir fait une heure sur le Cercle Rouge sans parler de Delon. C'est presque un défi, presque un défi. Peut-être dire un mot de Delon qui est là pour le coup, autant Bourvil, Montand, au moment du Cercle Rouge, ces deux éléments qui sont extérieurs à son univers et qui arrivent dans l'univers de Melville, autant s'il y a deux images qui coexistent complètement, c'est celle de Delon et de Melville. Ils font trois films ensemble, Samouraï, le Cercle Rouge et Un Flic. Et là, il y a quelque chose qui, pour le coup, marche presque tout le temps. Et ça, vous le dites aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compréhension intuitive ou entre eux qui fait que tout fonctionne toujours, quasiment.
Ben, vous savez, Delon, c'était l'acteur que vous connaissez. C'est un acteur génial, magnifique et malin. Il avait compris le truc. Donc, il resservait à Melville le même truc. Le problème d'un flic, où je n'étais pas... Mais après, ce que j'ai compris, c'est que à un moment donné, il a eu marre de faire toujours la même chose. Mais donc, il a fait sur le. Il avait compris que ce qu'aimait Melville, les regards, l'économie des gestes, il le faisait à la perfection, quoi. Donc, il interprétait un numéro très très bien. On dit qu'ils étaient amis. Je crois qu'ils avaient très peu de goût l'un et l'autre pour l'amitié au sens où l'on entend nous. Enfin, on entend le commun des mortels, quoi, des potes, des gens qu'on appelle. Non. Ils tutoyaient des sommets. Donc, mais ils se parlaient très peu. Et Melville ne dirigeait pas les acteurs, Melville mettait des acteurs, mais c'est ça la direction d'acteur, c'est pas alors tu fais ça, tu fais ci, il mettait les gens dans un environnement qui faisait qu'ils devenaient melvilliens. Et donc il est arrivé avec Bourvil, il n'est pas arrivé avec Jean-Marie Volonté, mais c'est son seul échec sur ce film en tout cas. Et Delon, ben, il faisait du Melville, très bien. Mais il avait très peu de discussions, très peu de... Il était parfait, il était l'élève parfait, sachant son texte à la perfection. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui pourraient en prendre de la graine. Il était parfait. Écoutez, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est vrai que quelquefois on me dit « tu ne parles pas beaucoup de Delon ». Ben, je ne sais pas quoi dire, parce que Delon, que j'ai bien... avec qui j'ai plusieurs fois travaillé plusieurs fois, avant, dans le clan des Siciliens, après, puisque j'étais plus ou moins conseiller technique sur les deux films qu'il a réalisés lui-même, après, il a produit mon premier film, donc c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration, et plus que de l'admiration, voilà, mais il y parlait très peu, il s'exprimait très peu, il était très réfrigérant, pas réfrigérant au sens melvillien du terme, mais simplement parce que il dégageait un grand malaise. C'était quelqu'un de très, très, très solitaire.
En tout cas, merci d'avoir su rendre avec autant de vie le tournage du Cercle Rouge. Et évidemment, on vous invite toutes et tous demain, donc à 11h du matin, à l'Utopia. Vous pourrez juger sur pièce de l'absence nécessaire ou non des rats en pâte d'amande. Mais en tout cas, vous pourrez surtout admirer ce film dans une très très belle copie. Et le film, voilà, sera présenté préludé d'une brève présentation par Bernard Stora, que j'accompagnerai. Merci beaucoup. Merci à vous.